Bien, alors on va passer à présent à la troisième et dernière présentation de cette matinée, donc de Karine Terral, Floriane Vautier et Patrick Bourque, du Jardin partagé à l'habitat participatif de la Pernotte. Comment le jardin partagé a nourri notre futur mode d'habiter? Merci.
Bonjour. Nous sommes trois à participer au groupe d'habitat participatif de la Pernotte. Floriane est dans le groupe depuis un an. Patrick est dans le groupe depuis le début, puisque c'est un jardinier du jardin partagé duquel est parti donc notre projet d'habitat. Et puis moi, c'est Karine, je suis dans le groupe depuis 2015.
On va vous parler rapidement de jardin partagé. Le jardin partagé de la Pernotte, il s'inscrit dans le jardin partagé qui correspond à la définition de 2003, c'est-à-dire des jardins créés et animés collectivement qui ont pour but de développer des liens sociaux de proximité par le biais d'activités sociales, culturelles ou éducatives et accessibles au public. Donc on y reviendra et on vous détaillera un petit peu plus en détail quels sont pour nous ces activités et ces liens sociaux.
Alors, ce jardin, il est géré par une association de quartier qui est le Café des Pratiques, qui est rue de Belfort à Besançon. C'est un café donc qui est géré, c'est une association en fait de quartier qui a dans lequel on peut avoir différents types d'activités que l'on pratique collectivement ou individuellement. C'est un café qui a une vocation sociale et citoyenne, puisque c'est un lieu aussi d'invention de pratiques communes ou individuelles. C'est un lieu où on a des activités artistiques, manuelles. C'est aussi un lieu convivial où on peut prendre un café et se restaurer. Et c'est pour nous aussi un lieu de transition. Donc, j'ai oublié de vous dire que ce café a à peu près 300 adhérents. Parmi ces adhérents, le café avait un certain nombre d'adhérents qui souhaitaient faire une pratique du jardin. Et ils ont repéré en 2012 un terrain communal à proximité du Café des Pratiques, puisqu'on est à peu près à 200 mètres du café. Vous avez des vues aériennes. C'est un terrain qui était en friche et sur lequel il y avait un préfabriqué de l'école des Chaprais. Une rencontre a été faite avec la ville pour négocier l'usage de ce lieu pour faire des adhérents, constituer un groupe de jardiniers et pouvoir défricher, dépierrer et installer le jardin partagé sur cette parcelle. La commune a accepté le projet et a passé une convention pour laisser 600 mètres carrés de ce terrain sur les 1 400 mètres carrés qui existaient. Il y a une convention pour la gestion de ce jardin partagé avec le Café des Pratiques et avec la ZEP Ruraisal. La convention aussi a permis l'accès à l'eau quand le préfabriqué en fait existant sur le terrain a été démonté l'année dernière, parce qu'en fait la toiture de ce préfabriqué servait à récupérer l'eau de temps en temps arroser le jardin et au démontage de ce préfabriqué, la mairie a accepté que l'on accède à l'eau.
Ce jardin, il fonctionne sur adhésion. Donc, c'est des adhérents du Café des Pratiques qui peuvent venir y jardiner. Il y a une liste de discussion Internet entre ces jardiniers avec 2 à 3 réunions par an. Donc, pour s'inscrire, il suffit d'être adhérent au café. Et il est également ouvert en fait aux enfants de l'école mitoyenne, donc de l'école des Chaprais. En réalité, il y a une dizaine de jardiniers qui viennent régulièrement. Et qui pratiquent une culture respectueuse de l'environnement, sans intrants chimiques, et une culture collective. Donc il y a une liberté de culture avec un respect des plantations qui sont effectuées par les autres jardiniers. Sur la liste, donc, on a une trentaine de jardiniers qui se donnent rendez-vous régulièrement, qui peuvent venir soit jardiner ensemble ou séparément, et qui en fait vont procéder à des cultures un petit peu au bon vouloir de chacun. Donc les plus courantes, ça va être des tomates, des carottes, des pommes de terre, salades, un petit peu tout ce qui se, un petit peu toutes les plantations un peu courantes. Et on n'est pas sur des parcelles individualisées. C'est vraiment un jardin collectif où l'ensemble des jardiniers ont accès à l'ensemble du terrain. Et les cultures sont partagées un petit peu de manière aléatoire. C'est pas un jardin qui a pour but de vraiment nourrir, il est trop petit pour ça, mais c'est plutôt un rapport à la terre et un rapport à des pratiques qui sont un petit peu perdues en ville. Donc l'objectif principal, c'est vraiment de garder le contact à la terre pour les urbains. Comme le terrain, il est appelé à être urbanisé, avec le projet d'habitat participatif dont on va vous parler, les jardiniers s'attendent pour le moment un petit peu chaque année à devoir interrompre le jardin pour la durée des travaux. Donc du coup, on n'a pas une gestion très stricte, on est plutôt dans une gestion souple puisqu'on n'a pas connaissance des échéances et de quand la pause va devoir se faire. Et la seule règle, c'est de respecter les plantations des autres. Peut-être qu'une fois que le jardin aura repris après cette pause, il y aura des règles plus élaborées, mais ce sera à voir. Pour les rencontres, donc il y a souvent des rencontres et des travaux collectifs qui sont suivis de pique-niques partagés, souvent les week-ends, et de moments festifs, avec enfin un tour de garde qui est mis en place en été pour garantir l'arrosage et une veille régulière.
Donc c'est le jardin partagé est un prolongement extérieur du café, où on vient expérimenter dans le jardin et partager ses savoir-faire. Alors des fois, c'est formalisé sous la forme de journées de formation, et puis parfois, c'est chacun qui se donne rendez-vous avec les uns et les autres dans le jardin pour pratiquer et échanger.
Donc c'est un lieu d'accès à la terre pour les citadins, pour sensibiliser à la qualité, la richesse, la beauté du jardin. Et également pour les enfants qui n'auraient pas accès à ces terrains en ville.
C'est un lieu public, ouvert et convivial. C'est un terrain d'aventure pour les enfants, mais c'est aussi un lieu de rencontre pour adultes. On vient se poser dans le jardin, on vient faire des récoltes collectives et partager un repas ensemble. C'est aussi un espace festif. Il y a 2 ans, le café a organisé au jardin la fête de la citrouille qui a regroupé plus d'une centaine d'habitants. Nous y avons fait au mois de juin une fête d'été pour fêter l'obtention de notre permis de construire.
C'est aussi un lieu d'échange et de partage de savoir-être, donc semer, observer, prendre soin, cueillir, goûter, particulièrement pour les enfants et avec l'initiative d'un jardin pédagogique pour les enfants de l'école d'Échapperey qui est attenante. En fonction de la disponibilité des professeurs et des différents projets qui se montent de manière un peu irrégulière.
Je vais un peu parler de mon expérience à moi là, sur le jardin, parce que donc, c'est peut-être moi qui suis le plus présent dans le jardin actuellement. Juste un mot, j'ai bien aimé connaître les relations les écrits de Fourier par rapport au jardin. J'aurais peut-être pas dû utiliser le mot de folie parce que, bon, ça c'est un petit peu... je suis en plus ancien infirmier psychiatrique, donc c'est peut-être un mot... c'est peut-être une folie positive, on va dire. Donc moi, j'ai vécu pendant 40 ans à la campagne et j'ai quasiment toujours fait du jardin. D'abord connu le jardin avec mes parents qui étaient ouvriers et qui avaient leur jardin. Ensuite, je suis venu en ville, donc il y a une vingtaine d'années. Je suis resté assez longtemps sans faire du jardin. Et le jardin partagé de la Pernotte m'a permis de revoir à nouveau contact avec la terre et le jardin, ce qui m'a beaucoup intéressé. Alors, je dirais que ça m'a permis d'avoir contact avec le jardin, je dirais en mieux. Parce que j'ai connu longtemps le jardin, j'avais trois enfants, un métier, il fallait s'occuper de tout ça, une maison à retaper, ça faisait beaucoup de choses en même temps. Et là, je me retrouve avec un jardin où je peux y aller quand je veux. Je sais que quand je pars un certain temps, une période, d'autres jardiniers vont s'en occuper. Donc, ce n'est pas une contrainte comme on peut avoir un jardin à s'occuper. Et il faut être, je dirais, quasiment toujours là parce que c'est un entretien, un jardin, ça demande un entretien assez régulier. Alors, pour terminer, en ce qui me concerne, ce jardin, moi, je voudrais le voir... J'aimerais bien que beaucoup plus d'enfants viennent dans ce jardin. C'est pour moi, je me présente les gamins des banlieues, tout ça, qui ont perdu complètement le contact avec la terre. Bon, on cite un peu l'exemple un peu gros du gamin à qui on dit de dessiner un poisson et qui va dessiner une tranche de poisson pané. C'est peut-être un peu gros, mais c'est un peu ça auquel je pense, parce que il me semble que de perdre tout contact avec la terre, avec un geste un peu archaïque qui est ce contact avec la terre, est quelque part néfaste pour le devenir de l'enfant et au-delà de l'humanité.
Donc en 2012, lorsque le café Les Jardiniers installe le jardin sur cette parcelle, ils découvrent aussi que la ville a un projet d'urbanisation sur ce terrain-là. Et donc là, il y a quelques craintes au niveau des jardiniers de voir l'implantation d'une promotion immobilière standard sans lien avec le jardin partagé. Et donc vous voyez ici, c'est le plan donné par la ville en 2012. Avec un immeuble en rouge sur la rue, à l'arrière des maisons accolées, et puis le jardin cantonné sur la partie nord-est du terrain. Donc le café, voyant que la mairie tenait à urbaniser le terrain, parce qu'au café, au départ, l'idée était de maintenir ce terrain totalement végétalisé, voyant que la mairie ne l'entendait pas de cette oreille, le café, c'est un lieu d'échange et de rencontre, donc mûrit un petit peu l'idée de participer à une autopromotion sur ce terrain. Alors, les jardiniers, quelques-uns des jardiniers étaient déjà sensibilisés à l'habitat participatif, hein, connaissaient de plus ou moins près l'habitat participatif. La ville de Besançon, elle, était dans le réseau des villes soutenant ce type de projet. Au café, il y avait eu déjà des échanges avec l'association qui s'appelait Habiter Autrement à Besançon et qui défendait des projets d'autopromotion. Et le café cherchait une activité, un modèle économique plus pérenne pour ses activités, notamment de restauration et de café. Donc l'idée a germé d'associer un habitat participatif à la création de nouveaux locaux pour le café.
Donc, pour tester la faisabilité du projet d'un habitat participatif, des premières réunions publiques ont été lancées donc en mai 2013, qui ont rassemblé au début une cinquantaine de personnes qui sont venues manifester leur intérêt, soit pour investir, soit pour habiter, ou simplement pour suivre cette aventure. Parmi ces 50 personnes, il y en avait une trentaine qui se disaient prêtes à s'engager pour financer l'étude de faisabilité, et une vingtaine qui souhaitaient investir dans le projet en tant que propriétaire occupant ou bailleur. Ces premières rencontres ont établi les bases du projet, c'est-à-dire de préserver un espace pour le jardin partagé, de proposer des logements en autopromotion et d'intégrer le café des pratiques, le café associatif, dans l'immeuble. Donc c'est dans ce contexte que le projet a été testé, que la faisabilité a été testée. Et il y a eu donc des premières visites du site pour partager les intérêts autour du principe de construire collectivement.
Donc, en ce qui me concerne, j'ai entendu parler de l'habitat participatif déjà en 2007 lors d'une réunion à Besançon où certains cherchaient à fonder un groupe. C'est ainsi qu'est née par la suite Habiter Autrement Besançon, une association de promotion de l'habitat participatif. Plusieurs groupes dans l'association se sont engagés dans divers projets, mais qui ne sont jamais allés très loin. Étant